Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Merci de nous être fidèles tous les week-ends. Au sommaire de l'émission jusqu'à 13h, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis en débat ce samedi, la politique de la réforme. Qu'est-ce qu'une réforme réussie? La forme est-elle aussi importante que le fond? Et quel est le prix politique symbolique d'une réforme? Beau cas d'école avec ce qui s'est joué cette semaine autour de la réforme des retraites. Projet présenté comme juste et universel, mais un gouvernement qui a pourtant choisi de recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour la faire adopter. Et des débats qui sont loin d'être terminés. Pour en parler, notre invité, le directeur de l'Institut Montaigne, l'un des think tanks les plus influents en France aujourd'hui. Il avait fourni quelques-unes de ses idées fortes au candidat Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Le directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorgne, nous rejoindra d'ici une vingtaine de minutes.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le grand face-à-face avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Et pour commencer le duel, une partie de campagne.
On est dans un système démocratique où en fait, les ministres, leur légitimité ne procède pas d'un scrutin électif, d'un scrutin. Vous allez en Angleterre, pour pouvoir être ministre, il faut être député au Parlement. En fait, en France, ça marche pas comme ça. Et donc, une élection locale, elle ne détermine pas votre avenir national. Et en l'occurrence, le Premier ministre, tant qu'il aura la confiance du Président de la République, selon nos institutions, restera Premier ministre. Donc...
À une semaine des municipales, c'était Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Elle était l'invitée de la matinale d'Inter mercredi, interrogée sur le sort du Premier ministre Édouard Philippe, qui est également candidat à la mairie du Havre. Vous l'avez entendu, elle disait les mots suivants, une élection locale ne détermine pas un avenir national. Gilles, est-ce qu'elle a raison ?
Je ne crois pas. Je crois que c'est une illusion de penser que lorsque... Première illusion de penser que lorsque tous les Français sont appelés aux urnes pour une élection locale, mais qui, de ce fait, a une résonance nationale, a fortiori sur une élection qui, plus que les autres, implique les Français et auxquels ils participent, que ça ne peut pas avoir d'effet national, et illusion davantage encore de penser que, par hypothèse, un Premier ministre battu dans la ville dont il est le sortant pourrait rester en place. Donc, on va voir ce qu'il en est. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, si c'était dans cette hypothèse-là, je doute fortement que le Premier ministre puisse se maintenir.
Natacha.
Alors pour ce qui est du Premier ministre, le cas est d'autant plus frappant qu'il aurait très bien pu choisir ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire de ne pas être tête de liste, d'être sur une liste municipale, d'apporter sa caution, mais de ne pas briguer le mandat de maire. Or, il brigue le mandat de maire. Pourquoi ? En envoyant un message aux électeurs qui est, en gros, je tiens ma place au chaud. C'est-à-dire, je suis maire, mais évidemment, je serai Premier ministre. En revanche, comme j'ai le statut, le jour où je ne suis plus Premier ministre, le jour où ça tourne mal, le jour où on considère que je ne fais plus mon boulot de Premier ministre, au moins, j'aurai une place bien préparée. Ce qui est quand même un message assez particulier à envoyer aux électeurs. Donc, de fait, il choisit lui-même de se mettre en avant dans ce scrutin municipal. Deuxième chose, si réellement ce scrutin, comme l'affirme Sibeth Ndiaye, n'a pas de portée nationale, pourquoi le gouvernement a-t-il tout fait depuis quelques mois pour essayer de brouiller toute possibilité de lire les résultats avec des décisions absolument effarantes sur la coloration des listes, sur la prise en compte donc des votes à un moment il était... La circulaire Castaner qui nous expliquait qu'on n'allait pas compter dans les villes de moins de 9000 habitants était absolument délirante. C'est-à-dire que ça excluait 96% des communes, 50% des électeurs. Ça commence à faire beaucoup.
Gilles ?
Oui, j'étais en désaccord sur un point. Ce que signifie la candidature d'Édouard Philippe, c'est aussi, pour reprendre la formule classique du macronisme, je prends mon risque. Je prends mon risque, ça veut dire... Si je suis battu,
je m'en vais.
Mais ça veut dire aussi, parce qu'il pense qu'il ne va pas être battu, si je suis réélu, je suis renforcé. Donc moi, je le lis plus comme ça, mais ça veut dire dans les deux sens.
J'aimerais qu'on revienne sur la campagne municipale avant de passer à un autre sujet. Les enjeux nationaux s'imposent dans cette campagne. Ce qui est assez curieux, c'est que quand on regarde la situation ville par ville, on parle de choses extrêmement locales, très peu des grands débats nationaux. On a l'impression que le clivage gauche-droite est redevenu pertinent ou qu'il existe toujours, il n'a pas disparu. Vous partagez l'analyse ou pas, Natacha ?
Non, je ne partage pas l'analyse, dans la mesure où je pense qu'il y a énormément de communes dans lesquelles, justement, vous avez des listes qui sont plutôt des listes citoyennes, des listes sans appartenance précise. C'est-à-dire qu'on voit une volonté de montrer une forme de méfiance vis-à-vis des grands appareils. Ensuite, pour ce qui est des enjeux, ce sont des enjeux, alors là, qui sont extrêmement intéressants dans la mesure où
on a une mobilité,
on a une hypertrophie des questions écologiques. On a tendance à oublier un peu trop, à mon avis, les autres. C'est-à-dire, je ne dis pas que les questions écologiques ne sont pas importantes. En revanche, je pense que les questions de maintien du commerce, d'aménagement urbain, sont au moins aussi importantes. Et je trouve très frappant qu'on les oublie un petit peu partout. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse discuter, débattre des véritables critères qui devraient être dans la tête des citoyens au moment où ils vont voter pour un maire.
Gilles Finkelstein.
Je pense que ce sont des élections un peu désidéologisées, au sens où les partis politiques eux-mêmes s'effacent derrière des listes citoyennes. La place, y compris les étiquettes des partis, sont beaucoup moins présentes. Ce sont, par ailleurs, des élections beaucoup de réponses à une demande plus que de formulation d'une offre. La question très transversale dans toutes les listes des préoccupations environnementales en est une illustration, de la même manière que les questions de sécurité, dont dans la hiérarchie des préoccupations que l'on voit monter fortement à l'occasion de cette campagne. Le côté positif, je me souviens des débats que nous avions eus sur les élections municipales ici même il y a quelques mois, c'est que ce sont à nouveau des élections d'engagement pour les Français. On a eu le chiffre cette semaine, un peu plus de 900 000 Français sont candidats à ces élections municipales. Il y a beaucoup de sujets, on y viendra tout à l'heure, dans lesquels il y a une situation particulière et plutôt négative de notre pays par rapport aux autres. Là, c'est un atout absolument considérable pour la démocratie que cet engagement des Français.
Mais sur le clivage droite-gauche, quand on regarde une ville au hasard, Paris, on a le sentiment que c'est malgré tout quelque chose qui est pertinent aujourd'hui.
Ali,
c'est pas...
Paris n'est pas la France.
Et
je pense que la situation...
Mais il y a aussi Paris en France.
Non, mais il y a aussi Paris. Et on a en effet une situation très particulière à Paris. Cela dit, je ne suis pas sûre que ce soit la résurgence du clivage gauche-droite qui permette de lire la situation actuelle à Paris, en tout cas pas seulement. Mais pardon, ce n'est absolument pas le cas dans la très très grande majorité des communes.
Dont acte,
je
on rappelle, a le droit de parler
80...
de Paris malgré
oui,
tout,
non, mais bien sûr, mais 96% des communes en France ont moins de 9000 habitants.
Gilles,
c'est quand même une lecture qui demeure pertinente dans plutôt de grandes villes, pas seulement Paris, mais disons dans toutes les villes de plus de 20, 30, 40, 50 000 habitants, la dimension politique du scrutin est plus importante que dans les petites villes. Et je trouve une des questions qui va se poser dans l'interprétation des résultats, c'est est-ce que ces élections vont être une poursuite de la révolution que l'on a connu depuis 2017, au bénéfice de La République En Marche, aujourd'hui ça semble très improbable, au bénéfice d'Europe Écologie Les Verts. On va voir si c'est la nouvelle étape. Peut-être que ça sera un essai non transformé au sens où il y a un potentiel de vote qui est très important. Il peut y avoir pas mal d'élus, en tout cas davantage d'élus, mais pas beaucoup de mairies. Au bénéfice du Rassemblement National, il présente plutôt moins de listes. Ou est-ce que, si ce n'est pas une révolution, est-ce que ça va être, et ça serait le retour du clivage gauche-droite que vous évoquez, des élections de résistance des partis traditionnels, avec une bonne résistance là où ils sont sortants des candidats socialistes et des candidats républicains qui partent d'une base qui est une base plus importante et qui pourrait être les véritables bénéficiaires de ce scrutin.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. C'est que je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Et ça, c'est vrai. Et ça me touche moi. Mais si ça me touchait que ma personne, à la rigueur, ce ne serait pas grave. Mais c'est plus profond. Et ce divorce, on le voit dans toutes les démocraties occidentales. Il m'inquiète et je considère qu'il est au cœur de la mission qui est aujourd'hui la mienne.
Emmanuel Macron, le 14 novembre 2018, il s'exprimait depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Un an et demi plus tard, a-t-il réussi à renouer le contact avec le peuple français? Il y a des éléments de réponse dans une enquête du Cevipof. Gilles, votre fondation, la fondation Jean Jaurès, y a participé. C'est le baromètre annuel de la confiance politique. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on découvre que les Français ont plutôt plus confiance dans les politiques qu'auparavant, et le résultat est quand même assez sidérant quand on songe que c'est en général un regard très critique qu'ils portent.
Alors, je n'en fais pas la même interprétation que vous, parce qu'il y a une petite partie de trompe-l'œil, dans la mesure où la précédente vague, ça fait 10 ans que cette enquête est posée, la précédente vague était en plein cœur du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, par rapport à ce point historiquement bas, il y a un rebond. Mais ce rebond nous remet au niveau qui était le niveau des années précédentes et qui est un niveau bas. Là où Emmanuel Macron a raison, c'est que cette défiance n'est pas seulement une défiance envers le président de la République actuel, mais que c'est une défiance qui est forte et qui est beaucoup plus large. Elle touche l'ensemble des gouvernements depuis 15 ans. Elle touche l'ensemble des institutions nationales et européennes qui ont à peine 30% de confiance.
Ça, on va
elle
y venir.
Concerne la politique en général qui n'intéresse que la moitié des Français. Elle concerne très fortement les partis politiques. En revanche, là où Emmanuel Macron n'a pas totalement raison, c'est que cette défiance est spécifiquement française. Ou en tout cas, elle est beaucoup plus forte en France qu'ailleurs.
Alors, avant d'aller voir ce qui se passe à l'étranger, parce qu'effectivement, en France, la situation est pire qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni, Natacha Polony.
Non, mais justement, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est la comparaison avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. Parce que moi, ce qui m'a intéressé dans ces chiffres, c'est que l'apparence, c'est en effet, il y a une défiance, il y a une colère. En gros, les Français ne sont pas contents et ils sont plutôt moins contents que les autres citoyens. D'accord.
Mais ils sont plus contents qu'auparavant de leur maire. Ils sont même plus contents qu'auparavant du président de la République.
Oui, voilà. Mais finalement, quand on regarde, ce sont des variations qui sont pas non plus absolument énormes. En revanche, il y a 2-3 chiffres où on voit une différence avec les Anglais et les Allemands, comme par exemple sur le fait que les Français pensent que les citoyens doivent se mêler de politique. Gilles disait à l'instant, il y a une question sur est-ce que vous vous intéressez à la politique, et il s'y intéresse globalement assez peu par rapport aux autres. Mais il pense que les citoyens doivent se mêler de politique beaucoup plus que les Anglais et les Allemands. Ça nous raconte quoi ? Ça nous raconte qu'ils ont une attente absolument énorme envers le politique, vers la République, la démocratie, tout cet engagement, mais que ils ont l'impression que là, le système ne fonctionne pas, et donc ils expriment leur dégoût en se désintéressant. Un peu plus loin, il y a une question, 80% des Français pensent que les responsables ne se préoccupent pas d'eux. Là aussi, c'est 59% en Allemagne, c'est 63% en Grande-Bretagne. Là aussi, c'est un désamour, c'est-à-dire, il me semble, j'ai envie de l'interpréter comme ça, je pense que les Français sont un peuple plus politique que les autres et qui, du coup, est beaucoup plus dégoûté que les autres.
Beaucoup plus dégoûté que les autres. Justement, Gilles, c'est très étonnant de voir que même au Royaume-Uni, on a plus confiance en l'Union européenne qu'en France.
Oui.
C'est sidérant quand on pense au Brexit.
Évidemment. La spécificité de cette enquête, c'est que pour la première fois, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Fondation Jean Jaurès avec l'Institut Montaigne, on recevra tout à l'heure Laurent Bigorne, Terra Nova et la Fondapol se sont associés à l'enquête, c'était précisément pour que ce soit pas seulement une enquête nationale, mais que pour la première fois, on la fasse aussi au Royaume-Uni et en Allemagne. J'espère que les années suivantes, on réussira à le faire dans quelques autres pays européens. Et je disais, Emmanuel Macron a raison sur le fait que c'est pas une défiance qui touche seulement le président de la République, elle est plus large. En revanche, il n'a pas raison au sens où c'est une défiance qui est spécifiquement française. Je vous donne juste 3 illustrations qui m'ont beaucoup frappé. Qu'est-ce qui caractérise le mieux votre état d'esprit actuel? Les Français répondent d'abord méfiance à 30%. En Allemagne, c'est 8%. Quand vous pensez à la politique, quels sont les sentiments que vous avez? Méfiance à nouveau, mais dégoût, disent à 27% les Français. 8% les Allemands. Enfin, est-ce que vous avez le sentiment que la démocratie fonctionne bien ? 35% seulement des Français répondent oui, 55% des Allemands, et le même chiffre pour les Britanniques. Donc il y a un malaise spécifiquement français, et qui, pour beaucoup, je crois, est une crise du politique.
Ils ont raison, les Français, ou en tout cas ceux qui ont répondu à cette enquête, Natacha ?
La question n'est pas qu'ils aient raison, c'est que s'ils le vivent comme ça, c'est qu'il y a un phénomène politique qui se joue. Alors, je pense que ça peut peut-être s'expliquer. Il y a différentes causes, mais si c'est un phénomène largement français, il peut y avoir 2 types d'interprétations, et à mon avis, elles ne s'excluent pas. Il y a l'interprétation que j'avançais tout à l'heure, qui est la question de la culture historique française qui est spécifique. Encore une fois, si les Français pensent plus que les autres peuples européens que les citoyens doivent se mêler de politique, c'est que je pense qu'ils ont chevillé en eux l'idée que la démocratie, c'est la souveraineté du peuple, c'est l'expression de la souveraineté du peuple, des citoyens assemblés. Mais il y a aussi une autre explication, et encore une fois, les deux ne s'excluent pas, c'est la spécificité des institutions françaises et objectivement le fait que ces institutions actuellement ne permettent pas de faire émerger une légitimité, de faire émerger la volonté du peuple.
Il y a un exemple particulier et qui est assez sidérant, c'est l'attitude ou le regard que portent les Français sur la police, Gilles.
Oui. Alors là, pour le coup, la même question est posée depuis 10 ans, qui est la confiance dans les institutions, mais les institutions au sens large. C'est extrêmement différencié. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'institutions dans lesquelles la confiance est très forte, dans un pays qui est plutôt défiant. L'hôpital, l'armée, les BME, on est à plus de 75% de confiance. On est à peine à 15%, on est à moins de 15% pour les partis. Mais l'évolution la plus significative, ou les deux évolutions les plus significatives rapidement cette année, c'est que dans une vague dans laquelle la confiance dans la plupart des institutions progresse, 2, 3, 4, 5, 8 points parfois, il y a deux institutions qui voient leur confiance s'affaisser, la police, moins 8 points, l'Église catholique, moins 11 points. J'ai regardé depuis 10 ans, jamais il n'y avait eu une baisse aussi importante, et pour le coup, on comprend très bien les raisons.
Natacha.
Oui, on les comprend, et quand on compare avec le moment de 2015 de Charlie Hebdo, la confiance en la police s'effondre. Je pense que là, il y a une responsabilité du gouvernement dans cette question-là, qui, à mon avis, est majeure, parce que le rapport des citoyens aux forces de l'ordre est quelque chose d'absolument essentiel dans un pays démocratique.
Vous partagez l'analyse, Gilles ?
Oui, je partage l'analyse à ceci près que depuis Charlie Hebdo, ça avait progressé. C'est-à-dire que la confiance dans la police reste relativement élevée, c'est 66%. Mais elle avait progressé de manière spectaculaire et elle était restée très haute, c'est ce que j'avais dit ici même.
Par rapport à 2015.
Et là, ça s'affaisse, je pense que c'est un sujet que le gouvernement devrait regarder de très près.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
C'est une bonne soirée et ça se passe de mieux en mieux. Il y a quelques jours encore, la presse avait annoncé la mort de cette campagne. Puis il y a eu la Caroline du Sud. On est bien en vie.
Joe Biden, justement, qu'on disait mort politiquement il y a encore quelques semaines et qui revient justement en tête de la course aux primaires des démocrates. Comment expliquer ce retournement de situation, Natacha Polony ? Est-ce que c'est une question de fond ? Est-ce que c'est une question finalement qui concerne davantage la manière dont Joe Biden mène sa campagne ?
Je pense qu'il y a une conjonction de facteurs. Il y a le désistement des autres candidats
Michael
centristes.
Bloomberg, Elizabeth Warren, par exemple.
Il y a le réveil de l'establishment qui, voyant monter Bernie Sanders, a battu le rappel et est en train de mettre en place une vague de fonds pour pousser Joe Biden, parce que là, l'urgence se faisait sentir. Bref, tout ça est en train de nous montrer qu'il y a une puissance de la mécanique du Parti démocrate dans sa version la plus établie et la plus classique pour essayer d'empêcher un candidat comme Bernie Sanders d'arriver. Ça s'était joué de façon différente lors des précédentes élections, puisque là, il y avait de fait des tricheries qui ont été montrées par la révélation des mails d'Hillary Clinton. Aujourd'hui, ça se fait d'une autre manière, beaucoup plus classique, beaucoup plus puissante, j'allais dire. Mais en effet, c'est une mécanique qui est en marche.
Gilles, ce n'est pas encore une sélection. C'est-à-dire que rien aujourd'hui n'est fait. Quand on regarde le nombre de délégués de Joe Biden et de Bernie Sanders, on est à peu près au même niveau et il reste encore 62% des délégués à attribuer. Donc, rien n'est fait. Mais ce qui est fascinant, c'est la rapidité de la clarification. Il y a quelques mois à peine, au début même des primaires, il y avait encore pas mal d'options stratégiques et une quinzaine de candidats. Là, en l'espace de quelques jours, on revient sur les plus connus, les plus identifiés, les plus âgés aussi.
À l'exception de Michael Bloomberg, qui est très connu et qui, en plus, est considérablement riche.
Oui, bah comme quoi, ça c'est au moins une des leçons peut-être positives de ce qui s'est passé, c'est que l'argent ne permet pas tout. Que Michael Bloomberg a investi 500, 600, peut-être 700 millions de dollars en l'espace de quelques jours. D'ailleurs, il n'a pas fait campagne et il n'a pas obtenu de voix, mais son retrait peut avoir un effet, c'est que, je disais, il n'y a pas une sélection, il y a déjà une clarification et il y a une dynamique. Il y a une dynamique parce qu'il y a un renfort sociologique, c'est ça qui a beaucoup joué pour Biden, l'électorat afro-américain, le renfort politique de tous les modérés qui, il y a eu une grande peur des modérés face à leur division qui se sont rassemblés derrière Biden parce que c'est lui qui a eu l'électorat afro-américain et pour la première fois, il peut y avoir un renfort financier. Joe Biden a moins d'argent que Bernie Sanders, peut-être de manière paradoxale, avec le retrait et le soutien de Bloomberg. Peut-être que ça va rééquilibrer. Mais je termine d'un mot. La question est de savoir sur quelle ligne. Et je crois que l'idée qu'on revient, comme d'habitude, à l'affrontement d'une ligne entre des démocrates plus modérés, plus sociolibéraux, face à une ligne plus radicale, plus socialiste, qu'elle est évidemment pour partie juste. Mais il ne faut pas oublier que le centre de gravité du Parti démocrate va sur la gauche, Biden compris.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a quand même bougé. Et d'ailleurs, le fait même que Bernie Sanders émerge de cette façon-là, là aussi, nous montre qu'il se passe quelque chose idéologiquement aux États-Unis. C'est-à-dire que le renouveau même de l'idée socialiste n'était pas particulièrement prévisible il y a encore quelques années. En revanche, oui, ce qu'il va falloir regarder, c'est la façon dont les soutiens financiers vont s'organiser autour de Joe Biden. Ça va être très intéressant. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans le positionnement classique des démocrates dans la droite ligne de ce qu'était Obama et même Hillary Clinton, en moins lié à Wall Street et aux intérêts financiers. Mais on est dans ce positionnement qui parle aux minorités, qui mène une politique libérale, pas trop, mais quand même beaucoup. Ça n'a rien de bouleversant par rapport à ce qu'a fait Obama. Et Obama, quand on regarde sa politique sur le plan économique, sur le plan géopolitique, on peut pas dire que c'était très très à gauche.
Gilles Finkelstein.
Alors, c'est peut-être pas bouleversant par rapport à ce qu'a fait Obama ou Clinton, mais c'est décalé. J'en prends juste deux illustrations. Le SMIC, qui a été un des grands débats d'affrontement entre Hillary Clinton et Bernie Sanders, là, y compris Joe Biden, y compris les modérés du Parti démocrate sont quand même sur une augmentation de 15% du SMIC. C'était pas du tout le cas auparavant. Je prends un deuxième exemple qui est la sécurité sociale, qui est évidemment un grand sujet. Alors, Bernie Sanders va très loin, mais tous les candidats, Biden compris, disent il faut que tous les citoyens aient la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une option publique. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne voyait pas du tout auparavant. Et je pense même que sur la question de la fiscalité, là aussi, Biden, Elizabeth Warren, allaient très loin, notamment sur l'impôt sur la fortune, que Biden lui-même sera obligé d'avoir des propositions en ce sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bataille idéologique, elle n'a pas été nécessairement gagnée par Bernie Sanders, mais qu'en tout cas, il a imposé un certain nombre de sujets.
Est-ce que cette bataille idéologique a eu lieu en France, Natacha, ou est-ce qu'on la regarde se dérouler aux États-Unis au sein du Parti démocrate? Est-ce que la question, pour vous, a déjà été tranché ici dans l'Hexagone?
Je pense que en France, le débat idéologique reste totalement ouvert, ou plutôt, il est écrasé aujourd'hui et qu'il a besoin de ressurgir de façon vaste, c'est-à-dire pas seulement entre une ligne social-démocrate et une ligne très à gauche, mais en faisant ressurgir aussi une forme de socialisme qui pourrait s'apparenter à certaines propositions même d'Elizabeth Warren ou de Bernie Sanders, enfin, c'est-à-dire une diversité dans les propositions de gauche qui pour l'instant sont totalement absentes.
Gilles?
Oui, dans cette question-là, elle reste évidemment ouverte. D'une certaine manière, elle a été posée au Royaume-Uni. D'abord, et la défaite écrasante de Corbyn a été une réponse au choix idéologique.
Si Bernie, quand on regarde la France,
si Bernie Sanders venait à être désigné, ça serait une excellente illustration. Le dernier point, c'est, j'ai dit, sur quelle ligne ça va se faire aux États-Unis. La question centrale, c'est aussi pour quel résultat. Est-ce que les démocrates vont finir par gagner? On a oublié un chiffre qui m'a beaucoup frappé, que j'ai vu hier. On se souvient que Hillary Clinton avait près de 3 millions de voix d'avance dans le vote populaire sur Donald Trump. Aux élections des midterms, au Congrès, c'est 8 millions de voix d'avance pour les démocrates. Donc, contrairement à ce que l'on pense ici, cette élection, elle n'est pas jouée.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec le directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorgne.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
Qu'est-ce qu'une réforme réussie? Comment mesurer le prix politique, symbolique d'une réforme? Beau cas d'école avec ce qui s'est joué cette semaine autour de la réforme des retraites, projet présenté comme juste et universel, mais un gouvernement qui a pourtant choisi de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour la faire adopter et des débats qui sont loin d'être terminés. Question de méthode, question de fond aussi et des enjeux dont nous allons débattre avec le directeur de l'Institut Montaigne, le think tank le plus influent du moment, Institut qui vient de publier une note sur la réforme des retraites. Le fond et la forme, le fond et la réforme. Bonjour Laurent Bigorgne.
Bonjour.
Avant de parler de cette note et du fond, qu'est-ce que vous pensez du recours au 49.3 puisque vous n'en parlez pas dans cette note-là ?
Non, c'est concentré dans la note, évidemment sur les aspects plus techniques et financiers, et en assumant ce parti pris. Le recours au 49.3, il me paraît, compte tenu de la situation, assez logique, et il était assez inscrit dans l'ordre des choses.
Logique ?
Bah, logique au sens où quand on a le sentiment qu'on va pas pouvoir dépasser une situation de blocage et de blocage politique, je trouve normal que le gouvernement l'utilise. Ensuite, est-ce que c'est le résultat idéalement auquel les uns et les autres souhaitaient parvenir ? Je pense que c'est plutôt un gâchis. Mais un gâchis qui a des racines plus profondes. C'est-à-dire que c'est une réforme. Vous disiez, qu'est-ce qu'une bonne réforme ? C'est une réforme qui est préparée.
Et ça, pour le coup, vous rappelez qu'elle était donc largement présente dans le programme du candidat Emmanuel Macron. On va y revenir, mais
pas si largement présente en réalité, Ali. Hein. Il y avait un principe directeur, et puis ensuite sur le reste, on était quand même sur une réforme dont les contours méritaient d'être précisés pendant les 2 années de travail qui lui ont été consacrées. Et c'est là où on est en droit de se poser des questions.
Et justement, le 49.3, est-ce que vous le percevez comme le signe d'un pouvoir autoritaire, d'un abus de pouvoir ?
Non, c'est pas un abus de pouvoir, c'est dans la Constitution, c'est prévu, c'est su, tout le monde le sait, tout le monde l'a employé à un moment ou à un autre, ça a été d'ailleurs abondamment rappelé dans les débats. Et d'ailleurs, on peut plutôt moins l'employer aujourd'hui, vous le savez. Il y a une limitation qui a été introduite à son usage qu'autrefois, et ça ne me paraît pas être un abus de pouvoir dès lors que c'est tout simplement un mécanisme institutionnel qui est prévu par le texte fondamental qui nous régit tous, qui est la Constitution.
Natacha Polony.
À ceci près que le 49.3 n'est absolument pas prévu pour qu'une majorité totalement pléthorique et tout à fait disciplinée vote un texte. C'est-à-dire que justement, le principe, c'est que le 49.3, c'est une façon pour l'exécutif de remettre en jeu sa légitimité face aux parlementaires, avec cette idée que cette légitimité va se jouer sur un texte. En gros, l'idée, détestez-vous à ce point ce texte que vous voulez faire tomber le gouvernement, ou bien prenez-vous vos responsabilités. C'est absolument pas ça qui se joue là. C'est simplement la réponse à une obstruction dont, en effet, je ne pense pas que c'était la bonne solution de la part des insoumis, et je pense qu'ils ont plutôt, eux aussi, décrédibiliser l'Assemblée nationale dans la mesure où ils auraient pu faire des amendements intéressants, des amendements importants et donner une leçon de démocratie au gouvernement. Ils ne l'ont pas fait. En face, on a un 49.3, mais qu'on ne dise pas que le 49.3 tel qu'il est utilisé là correspond à l'esprit de la Constitution. C'est pas ça du tout.
L'article 49.3, il est à la main du gouvernement. Donc, il l'utilise quand bon lui semble, y compris en portant, Natacha, un risque politique qui va avec. Puisque...
Il n'y a pas de risque.
Mais si. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion parues depuis, les Français désapprouvent. Donc, à un moment ou à un autre, ils s'exprimeront pour dire ce qu'ils en pensent. Moi, ce qui m'inquiète le plus, et là où on peut se retrouver, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt.
C'est comment ça ?
C'est un texte, le texte dont on parle, qui continue d'être, à mon avis, largement imparfait, avec un processus législatif qui est parallèle à une conférence sur le financement, et donc demander au Parlement de statuer sur le financement de quelque chose dont on n'a pas encore arrêté les grands principes avec ceux avec lesquels on entend discuter, pardon, toutes ces périphrases, mais je crois que malheureusement, il renvoie à la complexité de la situation. C'est ça qui me pose problème, et qu'on ait manqué un certain nombre de grands débats, notamment sur la question des grands équilibres démographiques de la société française, et qui sont pour le coup des choses qui nous engagent à 20-25 ans, qu'on soit pas capable de dire aujourd'hui qu'on fait plus pour les personnes âgées que par exemple pour la politique familiale, qui est un élément à mon avis extraordinairement important du contrat social qui nous unit, ça ce sont de vraies questions qui sont à mon avis beaucoup plus importantes que de savoir si l'esprit ou pas de la Constitution était respecté. Moi je considère que c'est la lettre qui a été respectée. Le gouvernement l'a à sa main et il en paye le prix au moment venu.
Gilles.
Oui, je vais prolonger cette question du 49.3. Je partage un point avec Natacha Polony, qui est que l'obstruction des insoumis principalement, non seulement décrédibilise le Parlement, mais y compris du point de vue de ceux qui sont opposés à cette réforme, a été totalement inefficace, parce qu'elle a interdit l'amélioration du texte qu'a permis malgré tout la discussion parlementaire.
Et pourtant, certains y voient la victoire de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise.
Et que, de manière paradoxale, la réforme a été adoptée plus rapidement parce que le gouvernement a, en réponse à l'obstruction, a déposé le 49-3 plutôt que de laisser la discussion parlementaire. Donc je suis d'accord sur ce point-là. En revanche, sur l'usage du 49-3, depuis les débuts de la Ve République, le plus souvent, le 49-3 a été utilisé pour pallier une résistance de sa propre majorité, mais il est arrivé plusieurs fois que ce soit aussi en réponse à l'obstruction. Vous dites, c'est logique, mais ça a des racines plus profondes. Est-ce que les racines plus profondes, en réalité, n'est pas le signe d'une absence de maîtrise ou d'une mauvaise maîtrise du gouvernement du temps depuis le début de cette histoire? Parce que s'il y avait eu une meilleure maîtrise, notamment du temps parlementaire, mais il y a eu beaucoup d'autres temps qui ont été mal maîtrisés. S'il y avait eu une meilleure maîtrise du temps parlementaire, vous dites que l'article 49.3 a été révisé en 2008, limitant son usage à une fois par session, ce qui est un grand changement par rapport à avant, mais il y a eu un deuxième changement dans la Constitution, justement pour lutter contre l'obstruction, qui est ce qu'on appelle le temps programmé, c'est-à-dire que lorsque vous considérez qu'il y a un risque d'obstruction notamment, il y a une disposition qui permet de limiter le temps, et notamment de limiter le temps de parole de chacun des groupes à son poids réel et donc à empêcher l'obstruction, notamment des insoumis. Or, parce que le gouvernement s'est précipité, il n'a pas pu utiliser ce temps programmé. Et donc, est-ce que tout ça n'est pas au fond le symbole, un symbole de plus d'une mauvaise maîtrise du temps de ce gouvernement dans cette réforme fondamentale ?
Laurent Bigornier.
On peut élargir la question tirée remarque de Jing Finkenstein. Moi, j'ai été très frappé que on choisisse d'y aller d'une certaine façon au pas de course, en insérant cette discussion sur la réforme des retraites dont on pouvait légitimement penser qu'elle serait difficile, longue et sinueuse, qu'on cherche à l'insérer entre la sortie du grand débat, d'ailleurs comme presque un point de sortie du grand débat, on a voulu en faire un exemple de ce qu'on savait faire maintenant, et les élections municipales. C'est-à-dire qu'il faut pas être un grand connaisseur ni un analyste de la vie politique française pour comprendre que il y avait là comme une difficulté qui serait quasiment insurmontable, puisque tout l'enjeu, même si manifestement le Premier ministre va rendre un peu de temps au Sénat, justement, une quinzaine de jours, pour arriver jusqu'au terme de la conférence de financement, tout l'enjeu c'était quand même de pouvoir montrer un processus apaisé et en même temps de pouvoir terminer ce débat avant les municipales pour ne pas polluer le scrutin avec ces questions. On voit que c'était, à mon avis, un pari perdu d'avance. Et par ailleurs, deuxième point, ce travail, et c'est pas faire insulte à Jean-Paul Delevoye, je pense qu'il a aussi fait avec ce qu'il avait entre les mains et les hypothèses de départ, ce travail a été mal préparé. Ce travail a été mal préparé au sens où on est sorti du bois en posant des grandes hypothèses sans être capable de répondre à des questions individuelles très légitimes que les Français pouvaient se poser.
Oui.
On savait pas mettre en place les simulateurs, on savait pas dire autrement que par des proxys, c'est-à-dire des figures dans lesquelles on se retrouvait plus ou moins, ce que serait la situation avant et ce que c'est la situation après. Alors la situation avant, on la connaît pour ceux qui sont retraités, et encore, c'est quelque chose qu'on appréhende tous très mal individuellement, mais sur après, on n'en sait rien. Je pense alors évidemment aux gens des régimes spéciaux, mais comme aux cadres à plus de 120 000 euros par an. Pour qui la situation va changer de façon, cosmique,
radicale.
Cette question du 49-3, elle est significative. Pourquoi ? Parce que j'insistais sur la dimension de légitimité qui, en fait, est au cœur de l'esprit de la Constitution de la Ve République. Et il me semble que cet usage, cette mauvaise gestion du temps que pointe Gilles, elle est en fait, elle nous révèle le fait qu'il n'y a aucune réflexion de la part du gouvernement sur cette question de légitimité et que finalement le 49-3 c'est utile aussi bien aux insoumis qui peuvent hurler à l'autoritarisme qu'au gouvernement qui n'a pas eu à affronter une véritable réflexion de fond sur un texte qui est mal préparé, et parce qu'en effet il y avait des solutions autres que le 49-3. Et d'ailleurs si les insoumis avaient été malins au moment où Édouard Philippe dit qu'il, le mardi soir, dit qu'il ira jusqu'au 49-3. Là, il retirait tous les amendements inutiles et il vidait de sa substance toute possibilité de demander le 49-3. Et là, on passait à un long débat qui enjambait les municipales. Ça aurait été intéressant. Mais simplement, j'insiste sur cette question de légitimité. Parce qu'en fait, tout ce que vous venez de décrire, Laurent Bigorgne, ce flou sur absolument toutes les données possibles, vient du fait qu'à aucun moment, le gouvernement ne se demande s'il est légitime à imposer une réforme qui a été mal pensée, qui ne correspond pas à ce qui a été annoncé pendant la campagne présidentielle et qui, aujourd'hui, ne correspond pas à l'attente des Français.
Laurent Bigorgne.
Le gouvernement, il est légitime en tant qu'il a été, désigné par le suffrage universel et la volonté populaire, hein, Natacha.
Bah, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Bah,
écoutez, de fait, en 2017, il y a une élection. La prochaine est programmée en 2022. Donc,
non,
moi,
là,
je suis pas là
pour.
Vous avez
évacué toute la complexité,
non,
justement,
je
de la situation.
Pas, je ne l'évacue pas, je la
c'est
vois différemment.
Total.
Je pense que ce que vous évacuez, vous, c'est la question de la responsabilité. Un gouvernement qui pose un texte sur la table, aussi mauvais soit-il, ou aussi difficile soit-il, et on peut d'ailleurs parfois être difficile sans être mauvais, parfois on peut être mauvais sans être difficile. Donc un gouvernement qui pose un texte sur la table, il engage sa responsabilité aux yeux de la nation. Et c'est normal, c'est le temps démocratique, hein. Moi je crois énormément au fait que la respiration démocratique, c'est évidemment le temps des élections, et qu'entre les élections, il doit y avoir du débat, ce débat doit rester dans un cadre républicain, mais on va pas non plus revoter tous les 6 mois, tous les 6 jours, toutes les 6 heures.
Il s'agit de tenir compte du fait que nous avons des institutions de la 5e République qui aujourd'hui empêchent de faire émerger la volonté des citoyens, et que là vous vous appuyez sur une légitimité parce qu'il y a eu une élection. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a pas un problème à ce qu'il y ait 350 députés pour représenter ce qui était 14,5% des inscrits au premier tour des élections législatives, et que peut-être le blocage que nous sommes en train d'analyser vient en partie de là?
Le débat que vous ouvrez est important. C'est le débat qui avait été ouvert censément par la réforme institutionnelle au terme de laquelle nous ne sommes pas allés. Et ça, c'est une vraie question qui mérite d'être posée. La question que vous posez, j'espère que c'est moins la remise en cause de la démocratie représentative que de savoir comment on introduit.
Alors ça,
une
c'est
dose...
une insinuation,
mais
par exemple.
Au bout,
oui, d'accord, mais
une
on
seule
évite
fois
d'insinuer
dans mes
des soupçons, des choses comme
pas
ça.
Du
c'est
tout.
Pas une façon de débattre.
Bon, pas du tout. Je vous dis juste que j'espère. J'espère que ça n'est pas une remise en cause de la démocratie représentative. Et je me retrouve avec vous pour m'étonner de ce qu'on n'est pas parvenu à avancer sur la question de la proportionnelle. Mais ça n'est pas pour autant que je vais me trouver là à dire, pour vous faire plaisir, que en réalité, 2 ans après une élection, un gouvernement n'aurait plus de légitimité.
Mais est-ce que ça veut dire quelque chose de la France et de ce qu'on appelle
oui,
la réforme? Est-ce que ça rejoint l'idée que la France serait un pays rétif aux réformes, et particulièrement à une réforme de cette ampleur, celle qui concerne tout le monde, à savoir celle des retraites?
Peut-être si je peux prolonger d'un mot la question d'Ali Badou.
Si vous le faites d'un mot, ce sera la première fois depuis le début de la saison, mais allez-y Gilles, je le dis en souriant.
Quand on regarde l'appréciation du mot lui-même de la réforme et l'évolution depuis 2017. En 2017, quand vous demandiez aux Français est-ce que le mot réforme est un mot positif ou négatif, 70% d'entre eux disaient c'est un mot positif. 2 ans après, on est à 45%. Donc est-ce que ce qui s'est passé depuis 2 ans n'a pas altéré l'idée même de la réforme?
Laurent Bigorgne.
Alors, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est spécifique à ce quinquennat? Ou est-ce qu'on est au fond sur un cycle qu'on connaît bien, qui consiste à dire on libère un maximum de dossiers après une élection, de dossiers qui ont été préparés dans les différents champs d'action publique, on voit comment on arrive à avancer le plus possible, et puis à un moment on est nécessairement stoppé, tout simplement parce que ce que Natacha a appris à la légitimité, c'est-à-dire les grands départs, d'une certaine façon, s'est émoussé. Et il s'émousse à raison de la plus ou moins grande habilité des uns et des autres. Il s'émousse aussi à raison d'un contexte national ou international. On se rappelle tous de la crise, par exemple, de 2008-2009.
Mais alors, du coup, il y a les enquêtes d'opinion pour essayer de trouver quelque chose comme une légitimité.
Je crois que ce n'est pas ça. C'est qu'en l'occurrence, je le rappelle, là, sur ce cas précis de la réforme des retraites, ce qui avait été expliqué pendant la campagne présidentielle n'a rien à voir avec ce qui apparaît aujourd'hui.
Je peux nuancer, Natacha, ce que vous dites d'un mot.
Elle est là, la question de la légitimité.
Je vais nuancer ce que vous dites d'un mot. En réalité, je suis pas d'accord avec vous parce que vous avez à la fois, à mon avis, tort et raison. Vous avez raison au sens où, évidemment, la réforme est infiniment plus complexe que les quelques lignes qui lui ont été consacrées, je crois, en février 2017, au moment où le président surprend les uns les autres à dire...
Le candidat
devenu président, mais le candidat a dit on n'a pas de problème financier en substance, hein, et donc on pourra faire pour la première fois envisager de faire une réforme systémique où on va garantir beaucoup plus d'équité et de visibilité dans le système en évacuant la question du financement. Donc le candidat dit ça, et en même temps il assume l'idée qu'il va faire une réforme systémique qui est bien le cœur de la réforme. Et c'est tout le problème, c'est que comme il a dit dès le début, je ne ferai qu'une réforme systémique et je ne veux pas entendre parler des questions de financement qui ne se posent pas, alors même qu'on savait tous qu'elle se posait.
Attendez.
On savait tous qu'elle se posait.
Donc quoi, il a menti
en défense? En défense, un instant, alors du candidat en l'espèce, quand il fait cette proposition en disant pour la première fois, le sujet n'est pas un sujet financier et donc on peut faire une réforme systémique, c'est au moment moment précis où le Conseil d'orientation des retraites fait un rapport qui laisse apparaître
ce n'est pas ce
cela.
Que dit le texte. Donc, ce n'est pas exactement ce que dit le texte. Et par ailleurs, tous les experts des régimes de protection sociale et des régimes de retraite savent très très bien qu'on est face à un déficit qui est structurel. Il est structurel. Pourquoi ? Il est structurel parce que notre régime par répartition, qui fait que les cotisations de l'année N payent les pensions de l'année N, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de cotiser pour nos pensions futures à nous, on est en train de cotiser pour servir les pensions des gens qui sont actuellement en retraite.
Oui.
On sait tous que le coefficient démographique entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités se dégrade inexorablement. Et on sait tous une chose, c'est que si on ne baisse pas le niveau des pensions, si on n'allonge pas la durée de vie au travail ou si on n'augmente pas le niveau des cotisations, c'est les trois paramètres de la conférence de financement, on est structurellement face à un régime déficitaire. Et ça, le corps là, toujours dit.
Et vous, vous proposez d'augmenter l'âge moyen de départ à la retraite, pour le coup, puisque ce serait l'une des seules solutions pour sortir de cette impasse budgétaire.
Si je peux entrer un instant, justement, dans la question que vous posez, elle est intéressante. Je vous ai parlé des trois paramètres. Moi, je suis pas pour baisser les pensions. Je trouve que ce serait totalement injuste, socialement. Et par ailleurs, ça mettrait en danger la croissance économique qui va déjà être très mise en question par l'épidémie qui touche en ce moment l'Europe occidentale et le monde entier. On peut pas augmenter les cotisations pour une raison très simple, c'est qu'on y consacre déjà énormément de points de PIB, et que si on augmente, par exemple, d'un point et demi les cotisations pour combler d'ici à 2025 les 17 milliards de déficit qu'on prend, nous, c'est l'hypothèse haute du corps comme l'hypothèse centrale, si on fait ça, on prendra un point de croissance en moins dans la figure.
Donc il faut accroître la durée de cotisation.
Y compris parce qu'on est en différentiel avec tous les autres pays européens.
Natacha.
Premièrement, donc, nous conclurons de tout cela que Emmanuel Macron, d'après vous, savait très bien que pendant sa campagne que ce qu'il était en train de promettre n'était pas vrai. C'est ça que j'ai compris de ce que vous disiez.
Mais les journalistes aussi, l'ensemble de la classe politique, sauf si les gens ne travaillent pas.
Il a embelli les choses pour être élu, ce qui pose un léger problème de légitimité, j'y reviens. Et deuxième point, pour ce qui est du problème que posent aujourd'hui les retraites, mais il y a d'autres solutions. Entrer plutôt sur le marché du travail pour augmenter le nombre de gens qui travaillent, relocaliser l'économie, ce que de toute façon, peut-être enfin le coronavirus va permettre, pour augmenter le nombre de gens qui travaillent, donc qui cotisent. Il me semble que là, on a en fait, sur cette question des retraites, une conséquence de la désindustrialisation massive. Donc c'est peut-être l'ensemble du système qu'il faut revoir plutôt que de faire payer les gens qui, a priori, ne sont pas particulièrement aujourd'hui dans une période où leur pouvoir d'achat augmente de façon démesurée.
Sans rien insinuer, mais les deux hypothèses que vous posez sur la table, que ce soit la relocalisation ou l'entrée précoce, très bien, j'applaudirais, c'est rien par rapport au problème qu'on a affronté. C'est-à-dire que ça ne pèse rien en termes d'efficacité. Non, mais pour le coup, viser les travaux, ça ne pèse rien budgétairement par rapport, par exemple, au problème qui est un problème à 27 milliards que nous avons à affronter d'ici à 2030. Ça ne pèse rien.
Non, mais produire en France, je vous assure que ça change beaucoup de choses.
Mais vous pointez du doigt la démographie, par exemple, et vous décrivez un système, celui qui existe, qui est globalement généreux. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
Oui, on a un système qui est généreux, et c'est pas encore une fois de remettre en cause. On a décidé d'y mettre 14 points de PIB. C'est-à-dire 330 milliards chaque année viennent financer le système qui alimente les retraites. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on dit toujours, à chaque fois qu'on aborde une réforme des retraites, la répartition est en danger. Bien sûr qu'elle est en danger. Sur les 330 milliards aujourd'hui de financement qu'on consacre, que la collectivité consacre aux retraites, il y a déjà 100 milliards de financement qui viennent d'ailleurs que des cotisations. C'est-à-dire qu'on est déjà plus dans ce système où nous tous ici, ceux qui nous écoutent, cotisent pour servir les pensions des retraités de cette année. En fait, on paye à côté des impôts, des taxes, des choses qui ne sont plus des cotisations sociales et qui fait que, d'une façon ou d'une autre, d'ores et déjà, un tiers du système des retraites n'est plus de la répartition. Donc, on a un système qui est généreux. D'ailleurs, le projet du gouvernement, il faut aussi en parler, il est plus redistributif que le régime qui existe aujourd'hui, Pourquoi ? Parce qu'il va prévoir des minima sociaux qui vont être beaucoup plus élevés, significativement plus élevés. Il prévoit aussi un certain nombre de bonifications, et je suis persuadé que la conférence de financement va encore, par exemple, du côté de la pénibilité, en prévoir d'autres. Donc on a un système qui est très généreux, qui est assez coûteux, puisque de tous les pays de l'OCDE, quand vous prenez le salaire moyen, on est le pays où les taxes et les charges sur le salaire moyen, notamment au service de la retraite, sont les plus élevées de tous les pays de l'OCDE. Donc on a un système qui est généreux et qui permet d'avoir relativement peu de pauvres qui sont à l'âge de la retraite, deux fois moins qu'ailleurs en moyenne. Donc ce système, il a quantité de qualité. Et d'ailleurs, le projet de loi améliore certaines des caractéristiques de ce système dans ce sens d'une plus grande redistribution. Mais il n'est pas financé en l'état.
Gilles.
Alors, c'est justement là-dessus que ce sur quoi je voudrais revenir. Que le système soit généreux, vous le décrivez, et c'est un mot positif, c'est juste qu'on soit dans un système de répartition, que ce soit dans le système actuel ou dans le futur système, et que donc on paye aujourd'hui pour, non pas pour sa propre retraite, mais pour les retraités, tout ça est juste. En revanche, avant de sauter sur le débat sur les solutions, sur lequel vous avez commencé à débattre, Natacha et Laurent, la question est quand même de savoir quelle est la réalité du problème. Et il y a un débat là-dessus. D'abord parce que il y avait un gros problème il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Depuis, beaucoup de réformes ont été faites. Ça fait 120 milliards au total de dépenses en moins ou de recettes en plus. Donc aujourd'hui, ce que dit le corps, c'est il y a un petit problème. On était à 120 milliards il y a 20 ans, c'est 12 milliards aujourd'hui. Et je dis, il y a un débat, y compris là-dessus. Vous vous dites, ce problème-là est plus important. Ce n'est pas 12, c'est 20. D'autres économistes qui ne sont pas moins crédibles et qui ne sont pas des gauchistes échevelés, disent le problème n'est pas plus important, il est en réalité moins important, parce que les hypothèses sur lesquelles sont bâties le rapport du corps, y compris les hypothèses démographiques, sont trop pessimistes. Donc est-ce que vous convenez qu'il y a un débat et que c'est difficile de savoir parce que ça repose beaucoup sur des hypothèses économiques que l'on ne, qui sont par nature hypothétiques, et sur des comportements humains que là aussi on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a débat ?
Bien sûr qu'il y a débat. Et d'ailleurs, moi, je ne parle pas de travaux qu'on aurait réalisés. Je parle des travaux du corps. Le corps nous dit, d'ici à 2025, on a un problème dans une fourchette de 8 à 17 milliards d'euros. D'ici à 2030, si rien n'est fait, on a un problème d'une fourchette de 14 à 27 milliards d'euros. 27 milliards d'euros, ça commence à faire beaucoup. Ça déplace un point de PIB si on estime que notre PIB continue à progresser à un rythme à peu près similaire à celui d'aujourd'hui. C'est beaucoup de déplacer un point de PIB au service d'un système qui en consomme déjà 14 versus une moyenne européenne à 10.
Juste pour comprendre, est-ce que le modèle social français est trop redistributif ?
Je dis pas qu'il est trop redistributif,
C'est la petite musique qu'on entend.
Et moi, je ne le conteste pas. Il est tel qu'il est, et je le prends tel qu'il est. Jamais je ne me prononcerai pour une baisse des pensions, jamais je ne me prononcerai non plus, parallèlement et symétriquement, pour une augmentation des cotisations dans la situation actuelle. Maintenant, prenons les hypothèses du corps, et allons un cran plus loin pour que ce soit, pour une fois dit,
rapidement.
Le travail du corps, dans ces hypothèses, c'est 7% de chômage. On n'a pas touché les 7% de chômage depuis 1982. On est à 8 en ce moment. On était plutôt à 10. Donc, il y a un effort. Mais plus grave que ça, le gain de productivité annuel qu'envisage le corps pour ses travaux, c'est de 1 à 1,8. La moyenne en réel, sur les dernières années, elle est à 0,9. Et donc, il y a un moment où il faut aussi reconnaître que le corps prend des hypothèses qui sont très généreuses, ce qui nous conduit, nous, à retenir ces hypothèses les moins optimistes, y compris parce que la démographie, on la connaît, et elle est en décélération depuis 4 ans.
Natacha.
Mais ce qui est très frappant, c'est que systématiquement, quand vous réfléchissez à cette question des retraites, vous faites comme si cette question-là était déconnectée de tout le reste des problématiques, à savoir la structure du marché du travail, quel type de travail on met en œuvre, par exemple. Parce que c'est cela qui ressort, et du coup, vous vous retrouvez dans des hypothèses fermées. La question des gains de productivité est une question majeure. Oui, j'argumente depuis tout à l'heure.
Mais non, précisément, dites-moi, expliquez-moi concrètement.
Cher Laurent Bigorgne, oui, si le principe d'une argumentation et d'un débat, c'est de dire que l'autre n'argumente pas, que l'autre ne sait pas et que vous savez, on peut peut-être ne pas débattre. Donc je suis en train de vous dire, si vous me laissez aller au bout d'une phrase, que lorsqu'on évacue la question, la réflexion sur la possibilité de gain de productivité, lorsqu'on évacue la question du type de travail qu'on met en œuvre, par exemple, il est majeur de savoir si on a des salariés ou si on a des auto-entrepreneurs qui cotisent ou qui ne cotisent pas, si on exclut l'âge d'entrée sur le marché du travail, si on exclut la lutte contre le chômage, donc le travail sur la reconstitution de filières économiques, c'est sûr qu'on se retrouve obligé de ne parler que du curseur de l'âge de la retraite ou du curseur de la hausse des cotisations. Vous excluez l'ensemble des autres problèmes.
Laurent Bigorgne.
À aucun moment on exclut l'ensemble des différents paramètres. Je suis à la tête d'un think tank qui travaille aussi bien sur la formation professionnelle, l'apprentissage, l'emploi des jeunes que la question du maintien des seniors dans l'emploi. Donc j'ai le sentiment de ne pas être complètement fermé aux problématiques que vous énoncez, de les connaître un peu aussi. Et me semble-t-il, ça n'est pas injure faire aux uns et aux autres. Si on prend par exemple la question de la productivité que vous avancez, que de dire que si on va sur des hypothèses par exemple, de gains de productivité très forts, ça veut dire une chose qui sera dramatique, c'est qu'on n'aura pas fait baisser le chômage. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on a un chômage qui est composé structurellement de gens qui sont peu qualifiés. Donc on voit bien qu'il y a un hiatus, donc on n'exclut pas des hypothèses, on les prend en compte en prenant en compte la réalité de ce qu'est la composition, par exemple aujourd'hui, de la population de chômeurs en France.
J'aimerais qu'on élargisse le débat pour les minutes qui nous restent avant de rendre l'antenne, mais j'aimerais qu'on comprenne ce que révèle pour vous cette réforme des retraites de la société française. Vous avez parlé des erreurs du gouvernement, Gilles parlait de cette mauvaise maîtrise des horloges, pour reprendre l'expression du président de la République. Malgré tout, les résistances, les inquiétudes de l'opinion par rapport à ce qui est proposé, même dans ces grandes lignes, fait question.
Je suis totalement d'accord avec votre question, et à mon avis, c'est la plus importante de la matinée.
Merci.
C'est celle qu'on vient de se poser les uns les autres, et on aurait pu commencer par là. Le sujet... Et c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, parce que personne n'en parle vraiment, c'est la démographie. Et c'est la démographie dans un contexte où la population française, vous parliez tout à l'heure des enquêtes d'opinion, nous dit une chose, on ne veut pas, on est réticent à l'idée, par exemple, de devenir un pays d'immigration. À partir de là, il faut renvoyer cette question à la population en disant, ok, qu'est-ce qu'on fait pour remettre en marche le moteur démographique ? Et je suis très surpris, par exemple, qu'un gouvernement n'ait même pas politiquement dit, très bien, en termes de vision sur la fin du quinquennat, on va régler cette question des retraites, avec ce codicille qu'on y ajoute, nous, qui est la question du financement du système. Deuxièmement, on va faire de la politique familiale.
Mais quand Jean-Paul Devoix a évoqué un possible lien entre la réforme des retraites et la question de l'immigration, ça a provoqué un tollé, il a été obligé de revenir en arrière.
C'est pas rien que je fais, je vous dis juste qu'il faut reparler aux Français de politique familiale.
C'est-à-dire ?
Eh bien, c'est-à-dire, par exemple, du coût du logement. Prenons un exemple très simple. Il y a une métropolisation de la population en France. Cette poussée vers les métropoles, c'est une poussée vers des zones très denses et qui sont extraordinairement complexes d'accès pour des jeunes en matière d'accès au mètre carré, que ce soit au titre de l'allocation de l'achat. Quand est-ce qu'on attaquera vraiment cette question de la politique du logement pour permettre de reconstruire une politique familiale qui, d'une certaine façon, redeviendra un des piliers de ce qu'est la force de ce pays ? Je suis très inquiet de la démographie. On va avoir et on va tomber en deçà d'un ennemi actif, par retraité d'ici à 2030. Le système, il a été conçu pour un paramétrage où il y avait 4 à 5 actifs par retraité dans les années 50.
Donc, ce que dites, c'est faites des bébés.
Oui,
faites
mais attendez.
Natacha.
Bien sûr.
Là, je vous rejoins sur cette question-là, Laurent Bigorne, sur la question du logement. En revanche, là aussi, il me semble qu'on ne peut pas se contenter de voir le problème en disant les emplois ne se créent que dans les métropoles, ce qui est le cas actuellement, hein. 82% des emplois créés sur les 10 dernières années, c'est dans les métropoles. Du coup, ça crée de la tension. Et du coup, la seule réponse est d'augmenter la production de logements, dont on voit bien que c'est très compliqué pour X raisons, et notamment des zones où il y a de la densité. Et pour des raisons environnementales, qui sont des raisons d'étalement urbain, d'artificialisation des sols. D'où le fait que ce sujet-là aussi doit être connecté avec la question de savoir comment on recrée des bassins économiques dans des endroits où il y a moins de tensions sur les logements. Il y a des villes en France qui se vident de leurs habitants, des villages n'en parlons pas, mais où il y a des logements qui sont vacants tout simplement parce qu'il n'y a plus de travail à cet endroit-là. Donc la question c'est de savoir comment on réaménage le territoire.
Laurent Bigorne.
J'ai rien contre ça et on se retrouve largement là-dessus, Natacha. Ensuite, une chose est de le dire, une autre chose est de le faire, mais je prends un exemple très concret s'agissant des métropoles. Il y a 19 crèches en moyenne pour 100 000 habitants à Marseille. La moyenne des 11 grandes villes françaises, c'est 26. Ça dit tout. C'est pas seulement une question de logement, vous avez raison. C'est aussi une question d'équipement. C'est aussi une question d'équipement dans des zones plus fragiles que d'autres. Et de ce point de vue-là, je crois que l'État a failli. Et c'est pas une question de Macron, hein, ça se vit sur longue durée. Si on n'est pas capable de retrouver une politique démographique, on aura des tensions politiques extraordinairement fortes parce que de toute façon, on deviendra un espace d'immigration et manifestement, ça pose problème aux Français. Donc à partir de là, il y a un vrai débat à avoir dans les mois et années qui viennent.
Qu'est-ce qui restera de cette réforme une fois qu'elle aura été votée, une fois qu'elle aura été promulguée, la future loi sur les retraites ? À votre avis, c'est du ressentiment dans la tête de la population ?
On verra bien. Il y avait énormément, par exemple, d'inquiétudes au début du quinquennat autour de la réforme sur le prélèvement à la source. Je ne dis pas qu'il y avait de même nature, hein, mais il y avait énormément d'inquiétudes. On disait c'est pas faisable, c'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plutôt à la fois de la satisfaction ou de l'indifférence, mais qui veut peut-être dire la même chose, et de la fierté du côté de ceux qui l'ont mise en œuvre et ils ont raison. Donc cette réforme, tout va dépendre un peu de ce que la conférence sur le financement va nous dire et de ce qui sera in fine voter. Et puis de ce que dira peut-être le Conseil constitutionnel. Donc il y a encore pas mal de chemin, et vous avez peut-être matière à d'autres émissions d'ici à ce qu'on tourne
la page. Ça c'est sûr, d'autant que cette émission se termine. D'un mot Natacha, avant de rendre l'antenne.
D'un mot, la différence entre le prélèvement à la source et la réforme des retraites, c'est que le prélèvement à la source, c'était uniquement une réforme technique qui faisait peur pour des raisons techniques. La réforme des retraites, c'est pas ça du tout la question. Ah, c'est la question de la préservation des droits, du niveau de vie.
Mais pas seulement.
Et donc la façon dont les gens
c'est aussi une réforme de simplification.
La notion même de réforme.
C'est aussi une réforme de simplification.
Juste et universel, vous maintenez les termes?
Juste, universel et finançable, et financé donc.
Merci Laurent Bigorgne. La note de l'Institut Montaigne sur la réforme des retraites est en ligne sur votre site. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Paola Puerari qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'était Marie Mérier. À la technique, Julien Dumont.